Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, notre nouveau rendez-vous, et nous parlons ce soir d'Amazon, son modèle, ses forces, ses limites. Nous sommes pour ce débat avec Elisa Brown du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
C'est votre première émission avec nous, bienvenue dans Soft Power.
Merci.
Emmanuel Paquette, vous êtes resté journaliste à l'Express, vous êtes resté jusqu'à la fin de cette émission, bon élève ce soir. Amazon, l'entreprise qui domine la vente en ligne et emploie plus d'un demi-million de personnes à travers le monde, a atteint la semaine dernière une valorisation à 1000 milliards de dollars, rejoignant d'ailleurs Apple. C'est seulement la deuxième compagnie à atteindre une telle valeur. Aujourd'hui, par exemple, Amazon génère davantage de revenus que Facebook, Google et Twitter réunis. L'entreprise attise les critiques de toutes parts, mais cette semaine, un article publié dans une revue juridique sur lequel nous allons revenir, signé Lina Khan, a fait la une des journaux américains. Alors avant de parler de cet article, Emmanuel Paquette, avec vous, Elisa Brown, peut-être Amazon, c'est quoi ? Tout le monde connaît un petit peu ces métiers, mais ils sont beaucoup plus divers que ce qu'on croit souvent.
Oui, parce qu'aujourd'hui, Amazon est vu comme un géant du commerce en ligne. Mais en réalité, la grande partie des bénéfices que dégage Amazon, puisque maintenant Amazon dégage des bénéfices, proviennent en gros de trois entités qui n'ont pas grand-chose forcément à voir avec le commerce en ligne. La première entité qui s'appelle AWS, donc c'est Amazon Web Services.
C'est du cloud.
Du cloud, voilà. Alors le système, c'était assez simple, c'est que Amazon avait des serveurs, et ces serveurs devaient pouvoir encaisser une charge de connexion très importante, notamment dans des périodes clés, c'est-à-dire Noël ou le Black Friday aux États-Unis, où là, il y a beaucoup de gens qui commandent en ligne et qui achètent beaucoup
donc
de choses.
Donc, ils ont multiplié les serveurs partout dans le monde. Il y en a on dit plus d'un million qui sont connectés entre eux.
Alors, ils donnent jamais les chiffres. Généralement, ils hésitent à donner même la localisation de ces data centers un peu partout sur la planète. Mais en tout cas, ce que s'est dit Amazon, c'est qu'une fois qu'on a payé ces serveurs, qui coûtent extrêmement cher, pour des pointes d'activité qui, en fait, ne sont pas si importantes que ça ou
si fréquentes, ouais.
Voilà. Ils disent, on va peut-être les louer en réalité. Et ça, c'était une extrêmement bonne idée, puisqu'en louant ces capacités lorsqu'elles ne sont pas nécessaires au fonctionnement d'Amazon, beaucoup d'entreprises ont pu l'acheter à un prix qui était relativement faible. Et du coup, aujourd'hui, ça devient quasiment la grande vache à lait d'Amazon. Faut voir qu'aujourd'hui, Amazon, c'est 177 milliards de dollars par an. Ça, c'était sur le dernier exercice. Que AWS fait autour de 20 milliards. Ça représente entre 10 et 11%, 15% du chiffre d'affaires d'Amazon. Mais ça fait quasiment 60%. Du résultat opérationnel d'Amazon.
Un cloud très puissant qui permet d'ailleurs de faire fonctionner, on le sait rarement, les concurrents même d'Amazon comme Netflix et tout simplement l'administration américaine, y compris la NSA, qui est obligée d'utiliser les serveurs d'Amazon pour fonctionner.
Oui, il y a une grande partie, alors Canal+ aussi en France utilise une partie d'AWS par exemple, donc ils ont de plus en plus de clients un peu partout sur la planète. En Europe, il se trouve qu'on a un grand concurrent quand même qui est OVH, donc on peut saluer le fait qu'en France...
Installé à Roubaix.
Ah, voilà, ouais. Exactement. Il y ait quand même une alternative à AWS ou à Microsoft Azure voilà, qui est effectivement OVH. Donc ça, c'est quand même à souligner, qui est le principal acteur européen. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est quand même un rouleau compresseur avec des taux de croissance qui sont faramineux. Et alors, qui génère énormément de cash pour Amazon.
Au-delà du cloud, les autres entités dont vous vouliez parler brièvement.
Alors il y a deux autres entités sur lesquelles Amazon parle relativement peu. Il y en a une qui est la publicité. Depuis peu aux États-Unis, quelqu'un qui vend ses produits sur Amazon peut faire de la publicité pour remonter dans le moteur de recherche, un peu comme sur Google. Et ça représente déjà 2 milliards de chiffre d'affaires et c'est quasiment autant de bénéfices et de profits pour Amazon. Et puis le troisième point, et là on n'a aucun détail en revanche, c'est que Amazon certes vend en direct, mais c'est aussi une place de marché pour d'autres commerçants qui aujourd'hui peuvent proposer leur boutique directement intégrée sur Amazon. Et là Amazon ne sert que d'intermédiaire.
On le sait déjà pour les livres, par exemple on peut acheter des nouveautés, ça c'est
exactement.
Amazon qui les gère, mais aussi tous les bouquinistes vendent souvent sous des noms multiples.
Voilà. Et par exemple tous les appareils de jardinage. C'est un énorme carton aujourd'hui chez Amazon, mais c'est pas Amazon qui achète ces modules-là. C'est vraiment des boutiques en ligne.
Qui utilisent la plateforme et aussi le service de distribution.
De distribution et de logistique. Ils peuvent choisir à peu près ce qu'ils veulent. C'est-à-dire soit de mettre en stock chez Amazon et Amazon s'occupe de la livraison. Et là-dessus, Amazon prend une commission au passage.
Elisa Brown du Figaro, sur ces métiers d'Amazon, comment est-ce que vous voyez les choses ?
Ce qui est très intéressant avec la stratégie d'Amazon, c'est qu'on est vraiment sur une stratégie de plateforme, c'est-à-dire donc une entreprise dont le modèle économique dépend de la mise en relation entre producteurs et consommateurs. C'est un intermédiaire, comme le disait
en même temps qu'il court-circuite les intermédiaires.
Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ils ont pu passer de produits comme des livres, du jardinage, et aujourd'hui, en fait, ça leur permet de grignoter l'ensemble de la chaîne de valeur d'autres industries traditionnelles. Amazon également, en fait, maintenant met à disposition des vendeurs ses propres actifs physiques, donc sa chaîne de logistique. Par exemple, si je suis un vendeur, je peux faire appel au service d'Amazon pour tout ce qui relève de l'emballage, du frais, mais aussi de la gestion du service client. Si Amazon fait ça, c'est pas seulement par philanthropisme, c'est aussi parce que derrière, l'entreprise acquiert de précieuses données sur ses concurrents et ça lui permet en fait également de préserver son monopole.
Mais ça veut dire que le livre finalement a été un produit d'appel. À l'origine, c'était cool, ça permettait de recevoir des livres rapidement, mais c'est plus du tout le centre du business d'Amazon.
Bien sûr, aujourd'hui, ça paraît difficile de dire qu'Amazon est seulement une entreprise de e-commerce. Comme je le disais, elle s'attaque en fait à l'ensemble des industries plus traditionnelles. Et il y a même en fait un effet Amazon, la peur de se faire amazoner, comme on dit dans d'autres secteurs.
Ubériser, ouais, c'est amazoné.
Ouais, d'ailleurs, dans les documents financiers, les analystes s'inquiètent plus en fait d'Amazon que de Trump. L'entreprise est plus souvent mentionnée. On a vu lors du rachat de Whole Foods en juin dernier, donc une chaîne de distribution aux États-Unis.
Alimentaire et d'ailleurs de produits plutôt bio, mais pas seulement.
Ouais. Après l'effet d'annonce du rachat d'Amazon, Walmart a perdu 8% et il y a un autre de ses concurrents qui avait perdu 12%, c'était Target. Et donc Amazon en fait s'attaque à tout un tas d'autres secteurs qui n'ont plus rien à voir avec le e-commerce.
Et même oui,
au niveau de la santé également, quand Amazon a annoncé qu'il allait s'associer à la banque JP Morgan pour créer une couverture santé pour ses employés. On a recensé une perte en fait de la capitalisation boursière sur le secteur de santé de plus de 31 milliards de dollars. Donc c'est une entreprise vraiment qui est sur tous les fronts aujourd'hui.
Alors parmi les exemples cités, les points cités par Elisa Brown, Emmanuel Paquette, il y a Trump justement, et là on voit bien qu'il y a une tension assez vive entre Trump et Amazon.
Oui, alors la question c'est de savoir est-ce que c'est une tension qui est liée directement à Amazon ou à Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, également propriétaire du Washington Post, donc un des plus grands quotidiens américains, voilà, auquel s'attaque très souvent Donald Trump, comme le New York Times d'ailleurs. Donc la question est de savoir, est-ce que Trump attaque Amazon parce que Jeff Bezos est également le propriétaire du Washington Post? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, quand il y a eu l'annonce des résultats, Jeff Bezos a fait une interview dans la presse américaine, et il a dit qu'il était très dangereux de diaboliser les médias, donc il s'attaquait directement à Trump. C'était un peu une première pour Jeff Bezos, de s'attaquer directement au président. Et il a rappelé « Je défends le Post, donc le Washington Post, car je n'estime que je n'ai pas besoin de défendre Amazon. Donc Amazon peut se défendre tout seul. » Donc on voit que via le Post, en fait, l'administration Trump attaque Amazon et son propriétaire Jeff Bezos.
Alors cette semaine également, un article a été publié. En fait, l'article est plus ancien, mais on en a beaucoup parlé cette semaine. Un article de Lina Khan qui a fait le tour du monde et la une de plusieurs journaux américains. Qui est cette jeune juriste âgée de seulement 29 ans, Lina Khan, Lisa Brown?
Donc Lina Khan, c'est une jeune prodige au niveau du droit américain, particulièrement en ce qui concerne l'antitrust. Elle a publié en 2017 dans une revue juridique de son université un article assez documenté d'une centaine de pages qui s'appelle donc le paradoxe antitrust d'Amazon. Et cet article a fait plusieurs centaines de milliers de vues et s'est attiré les louanges de tout un ensemble d'acteurs à la fois de l'antitrust et à la fois également de reporters.
Notamment cette semaine. Et alors, que dit cet article?
Donc cet article du New York Times dresse un portrait dithyrambique de la jeune femme qui est allée fouiller dans les archives en fait de l'antitrust, notamment en s'inspirant du démantèlement de Standard Oil en 1905. Donc en lisant les articles de la reporter qui avait notamment permis le démantèlement de cette entreprise au début du siècle dernier, elle a immédiatement fait la comparaison avec le modèle d'Amazon et s'est dit qu'en fait on était dans une sorte de schizophrénie, puisque aujourd'hui Amazon en tant que consommateur est extrêmement intéressant avec sa stratégie de bas coût, mais qu'en même temps, si on regardait à plus long terme ses effets sur l'économie, là par contre il fallait s'intéresser à son démantèlement ou en tout cas à sa régulation.
Notamment, les milliers de vendeurs indépendants se retrouvent à vendre leurs produits sur Amazon pour atteindre leurs consommateurs et sont donc paradoxalement dépendants de leurs plus grands concurrents. C'est un des points qu'évoque cette jeune fille, donc jeune femme de 29 ans, Lina Khan, Emmanuel Paquette.
Oui, en fait, l'idée c'est de dire que jusqu'à maintenant, tout ce qui était l'antitrust américain, c'est basé sur le prix et le fait que le client, le consommateur final, soit content de prix relativement bas. Et qu'en cas de concentration dans un secteur, généralement, il y a une hausse des prix qui s'ensuit. Donc c'était ce que regardait en priorité l'antitrust. Or, effectivement, ce que démontre cette jeune femme, c'est que la stratégie d'Amazon, c'est toujours des prix bas, mais comme l'ensemble des GAFA, c'est-à-dire tout gratuit ou pas très cher, mais avec des modes de rémunération qui sont totalement différents, basés soit sur les données personnelles des utilisateurs, en partie, ou sur des phénomènes d'éviction, c'est-à-dire on casse les marchés avec des prix bas, on tue la concurrence, et puis après on peut éventuellement remonter les prix. Donc elle dit que le système de mesure de l'antitrust américain ne fonctionne pas, et ne fonctionne plus à l'aune des GAFA, et qu'il faut en fait le réformer pour aujourd'hui pouvoir juger et jauger de la puissance de ces sociétés-là et de la nécessité de les réguler.
Et elle pense notamment qu'il faut penser à non pas à court terme, hein, puisque l'idée étant que des prix bas sont une bonne chose pour les consommateurs, comme Amazon le fait à court terme, mais qu'en revanche, sur le long terme, leurs intérêts résident également dans la qualité des produits, leur variété et l'innovation, ce que justement Amazon ne permettrait pas. Pour terminer sur ce, je dirais presque ce Amazon à 360 degrés, les faiblesses aujourd'hui d'Amazon pour vous l'un et l'autre, Elisa Brown, Emmanuel Paquette.
C'est justement le fait qu'aujourd'hui tout le monde regarde Amazon en se disant que d'une part il y a des problèmes de compétition, de concurrence, notamment puisqu'ils payent pas nécessairement leurs impôts tels qu'ils devraient les payer à l'extérieur de leurs frontières, et donc ça crée des problèmes de concurrence avec par exemple la Fnac sur le marché français.
Sur les temps, ils payent plus d'impôts que n'en paye Google ou que n'en paye Facebook, parce qu'il y a beaucoup de parties physiques.
Il y a une partie physique.
Obligés de vendre. Oui, oui. Il y a on envoie des livres, on envoie des aspirateurs, donc là il y a la TVA,
oui.
Etc.
Oui, mais en fait ils utilisent la plateforme technologique, ils la licencient depuis des pays à la fiscalité extrêmement réduite, donc ça vient éroder une grosse partie de la marge en local, notamment sur le territoire français. Donc ça, c'est une des incidences d'Amazon, c'est sur son agressivité fiscale. L'autre, c'est sur le type de job qu'elle peut créer. Vous savez, en ce moment, c'est la mode de ce qu'on appelle les bullshit jobs. Donc ces emplois qui n'ont aucune utilité. Notamment,
ils sont très mal payés, surtout.
Exactement. Donc notamment, on sait que Amazon s'appuie sur des gens pour rédiger les petites annonces des produits qu'on peut vendre sur Amazon. Ça, vous savez, c'est le Turc dont j'ai oublié le nom.
Mécanique.
Le Turc mécanique, c'est ça. Donc il y a aussi ça au niveau social qui pose question autour d'Amazon. Et puis effectivement, cette bataille avec Trump qui fait qu'aujourd'hui la FTC, l'autorité de régulation de l'antitrust américain, se penche sur Amazon et l'intégralité de toutes les boîtes du numérique.
Elisa Brown.
C'est vrai que cet effet, en gros, d'avoir des Turcs mécaniques, donc des utilisateurs payés pour écrire comme des robots des faux avis sur Amazon, ça c'est un des points faibles de la plateforme qui a entrepris de nombreuses mesures pour modérer les faux contenus sur son site, parce qu'il y a un vrai enjeu derrière qui est celui de la confiance du consommateur.
Bien sûr, de la qualité, bien sûr.
Et au-delà de ça, le consommateur également est sensible à tout ce qui relève de la bataille d'opinion, et de ce point de vue-là, Amazon est une entreprise qui n'a finalement pas très bonne presse. C'est vrai qu'on entend peu parler des revers de son modèle économique. En revanche, la vitrine visible, c'est quand même tout ce qui relève des conditions de travail des employés. Même si aujourd'hui, aux États-Unis, les villes se battent pour obtenir le nouveau siège d'Amazon dans leur ville. Chicago, par exemple, est prêt à s'asseoir sur 1,32 milliard d'impôts pour qu'Amazon vienne chez elle. Il y a quand même un front d'opposition assez fort, parce que on sait que les employés, notamment dans les chaînes logistiques, ont des conditions de travail très dures.
Pour terminer, Emmanuel Paquette.
Oui, effectivement, il y avait un livre qui est sorti en France il y a quelques années qui s'appelait En Amazonie, justement, qui décrivait assez bien les conditions de travail.
De l'intérieur,
voilà, ouais. Puisque la personne, effectivement, avait passé une grande partie, enfin plusieurs mois dans ces différents entrepôts. Donc on voit qu'au niveau social aussi, le modèle économique d'Amazon pose question.